des livres plein les oreilles. Salut, salut tout le monde, Clotilde Sey au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles, l'émission qui ne se consacre qu'aux livres audio. Je ne l'avais encore jamais fait, je pense, en 8 ans. Me semble évoquer en livre audio les plages du débarquement du 6 juin 44, autrement dit ce fameux D-Day ou le jour J, ça dépend de quel côté de la Manche on se place. Eh bien cette année ce sera chose faite. Hélas, si les livres sur papier sont nombreux, on peut pas en dire autant des livres audio, mais quand même, j'ai trouvé une brique assez extraordinaire sur Audiolib. Je vais vous en proposer un extrait, ça va vous remettre dans le bain et ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Et puis, avez-vous lu Je suis Pilgrim, le chef-d'œuvre incontesté de Terry Hayes. Il est depuis fort longtemps sur ma table de chevet, Terry Hayes, qui prétend haut et fort n'avoir jamais été un espion, bien que ses bouquins ne parlent que de cela. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ce monsieur Terry Hayes, alors non seulement je vais avoir Je suis Pilgrim sur ma table de chevet, mais je vais aussi avoir L'année de la sauterelle qui vient de sortir de monsieur Hayes et c'est déjà en livre audio extrait à la clé. Quoi d'autre? Ah oui, La mort du créateur de Babar, l'éléphant. Vous savez, l'éléphant qui avait les grandes oreilles, ça c'était pour écouter plein de livres audio. Enfin bon, quand je dis créateur, ça se discute, mais je trouvais, peu importe qui a écrit quoi, mais je trouvais que c'était une disparition qui méritait un petit hommage, tout comme d'ailleurs le décès d'Alice Munro. Ce sera évoqué par Faline Bobier en seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles, et j'ai évidemment des nouveautés en audio sur lesquelles je trouvais intéressant de jeter une oreille.
Va vous permettre d'en savoir plus sur le contexte politique et social de cet événement qui a changé le cours de l'histoire. Nous nous pencherons sur les acteurs du débarquement de Normandie, mais aussi sur son déroulement et sa chronologie. Vous découvrirez les raisons de la victoire alliée et les répercussions du débarquement jusqu'à la libération de Paris le 25 août 1944.
Et en préambule, dis-je bien, la musique de Maurice Jarre qui avait signé cette composition sur les images du film Le jour le plus long qui relatait tous les événements de ce débarquement. Alors ça, on a entendu un tout petit extrait parce que c'est un tout petit livre audio, mais pour ceux qui n'auraient pas le courage de connaître tous les tenants et tous les aboutissants de cette Seconde Guerre mondiale et de ce fameux D-Day qui marquera pour les uns la fin de la guerre, mais pas vraiment pour les autres, qui marquera malgré tout la libération de la France quelques mois plus tard grâce au courage inouï de ces soldats canadiens, anglais, ces soldats de l'armée des Alliés qui ont fait face au feu allemand sur les plages plates et les plages de sable qui les ont accueillis de la façon dont on sait, surtout quand on a les images en tête de deux films qui ont marqué, je pense, tous les esprits, y compris de ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là. Je veux parler du jour le plus long et puis aussi de Il faut sauver le soldat Ryan. Alors pour ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, tout connaître de la stratégie de ses alliés, de l'aide de la résistance, des questionnements des Allemands, des plans élaborés, ratés, je vous en recommande un autre, c'est D-Day et la bataille de Normandie. 24 heures d'écoute. Donc c'est vraiment une brique, c'est signé Anthony Beaver, B-E-E-V-O-R. Le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 passe à juste titre pour un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale, à tel point que dans l'esprit de beaucoup de Français, la fin de la guerre. On s'est dit, oh ça y est, maintenant que le débarquement a eu lieu, la fin de la guerre, ce n'est plus qu'une formalité. Mais il n'en est rien. Si le débarquement fut un de ces moments où se forgent les légendes, la bataille qui s'en est suivie, connue sous le nom de bataille de Normandie, fut autrement plus longue, difficile et émaillée d'atrocités. Et il faut imaginer, parce que quand on connaît mal le pays, je suis normande, alors je connais bien tout ce territoire-là, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, c'est qu'entre le moment où ils débarquent sur les plages, les survivants de ça, ils ont encore quelque chose comme 150 à 200 kilomètres à parcourir, à pied, en charge, pour arriver à Paris. Et ça ne se fera pas avant le mois d'août de cette même année 44. Imaginez, donc il se passe déjà 3 mois. Et pendant ce temps-là, il faut libérer toutes les villes, les unes après les autres, même les plus petits villages. Les Allemands se terrent partout comme des rats. Ça, en tout cas, c'est pour ça qu'on dit que c'est la bataille de Normandie qui a suivi, qui a été absolument terrifiante pour ceux qui s'en sont sortis sur les plages de sable de Omaha Beach. Alors, c'est certainement le premier livre d'histoire sur ces 3 mois de guerre totale qui a été publié depuis l'autre livre de Cornelius Ryan qui s'appelait Le jour le plus long, sorti en 59 et dont on a fait le film. Je vous en propose un extrait, donc extrait de D-Day et la bataille de Normandie.
Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Était dirigé par le docteur James Stagg, un grand écossais dégingandé, au visage plutôt hâve, barré d'une moustache soignée. Stagg, éminent expert civil en météorologie, venait d'être nommé colonel dans la RAF, grade qui lui conférerait l'autorité nécessaire dans un milieu peu habitué à recevoir des ordres d'un civil. Depuis avril, Eisenhower testait Stagg et son équipe en exigeant pour chaque lundi des bulletins météo à 3 jours, qui était par la suite confronté à la réalité climatique. Le jeudi 1er juin, veille du jour où les navires de guerre devaient appareiller de Scapa Flow, au large de la pointe nord de l'Écosse, les stations météo annonçaient la formation de fortes dépressions sur l'Atlantique Nord. Une mer démontée dans la Manche pouvait submerger les barges de débarquement et n'aurait de surcroît rien de très agréable pour les soldats entassés à leur bord. On redoutait également un ciel bas et une mauvaise visibilité, car le succès du débarquement dépendait de la capacité des forces aériennes et des marines alliées à détruire les batteries côtières et les positions défensives allemandes. L'embarquement général de la première vague de 130 000 soldats avait commencé et devait s'achever dans les 2 jours. Stagg était préoccupé par les divergences prévisionnelles des différents services météo britanniques et américains. Ils avaient tous reçu les mêmes rapports des stations météo, mais aucun n'en tirait les mêmes conclusions. Stagg ne pouvait s'en tenir à cela, et il se devait d'informer le général de brigade Harold R. Bull, chef adjoint de l'état-major d'Eisenhower, que la situation était complexe et difficile. « Pour l'amour du ciel !» hurla Bull. « Réglez ça pour demain matin, avant la réunion du commandement suprême. » Le général Eisenhower est très inquiet. Stagg retourna à sa baraque pour examiner les tableaux de données et consulter de nouveau les autres services. Eisenhower avait d'autres raisons d'avoir le trac à la veille du jour J. Sous ses dehors détendus et son célèbre sourire, dont il gratifiait tout un chacun quel que fût son grade, il fumait jusqu'à 4 paquets de camels par jour. Ajourner l'invasion comportait de nombreux risques. Les 175 000 soldats des 2 premières vagues ne pouvaient pas rester claquemurés par gros temps dans les navires et les barges de débarque perdre leur esprit combatif. Les vaisseaux de guerre et les convois qui s'apprêtaient à longer les côtes britanniques vers la Manche ne pouvaient pas rebrousser chemin plus d'une fois sans se ravitailler en carburant. Un tel va-et-vient donnerait en outre aux avions de reconnaissance allemands d'autant plus de chances de les repérer. Le secret de l'opération avait toujours été la préoccupation majeure. Une grande partie de la côte sud était couverte de camps militaires étirés en longueur, surnommés les saucisses, où les troupes d'invasion étaient censées être coupées du monde extérieur. Ce qui n'empêchait pas un certain nombre de soldats de se faufiler sous les barbelés pour un dernier verre au pub ou un ultime baiser à leur épouse ou à leur petit ami. À tous les niveaux, les possibilités de fuite d'informations étaient innombrables. Un général de l'aviation américaine avait été renvoyé dans son pays après avoir indiqué la date de l'opération Overlord lors d'un cocktail au Claridge. Et l'on commençait désormais à craindre que sur Fleet Street, la rue des grands quotidiens britanniques, l'absence des journalistes appelés pour couvrir l'invasion ne soit remarquée. L'imminence du jour J n'était plus un secret pour personne en Grande-Bretagne. Et les Allemands étaient également au courant du projet. Mais il fallait qu'ils ignorent où et quand exactement le débarquement aurait lieu.
Que je vous désannonce tout ça. C'était un extrait de D-Day et la bataille de Normandie, version française, lu par Antoine Thomé, de ce D-Day, autrement dit de ce jour J, avec au début le code, les sanglots longs de l'automne, etc., qui était le code de, qui a été utilisé pour faire savoir aux Français qui écoutaient la radio au fond de leur sous-sol, parce qu'il fallait surtout pas que les Allemands le sachent. Alors donc c'est comme ça que les Français et surtout les résistants ont su que le débarquement allait avoir lieu dans la nuit du 6 juin 1944, en fait au matin. Et puis la fin, la musique que vous avez entendue pour encadrer ça, c'était un extrait de la musique utilisée par Il faut sauver le soldat Ryan. Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Avez-vous déjà lu ce livre-là? Bon, d'abord un petit mot sur Terry Hayes qui vit encore, 72 ans, britannique au départ, arrivé très tôt en Australie, très jeune. Il a écrit les scénarios de quelques films majeurs, ça j'ignorais ça complètement, entre autres Mad Max 2 en 81, mais oui. Également le premier grand succès de Nicole Kidman qui s'appelait Payback. Et puis, bon, on le connaît surtout pour « Je suis Pilgrim ». Cet énorme best-seller qui a, je ne sais plus combien de personnes ont acheté ça à travers le monde, mais c'est un best-seller énorme, désormais d'ailleurs considéré comme un maître étalon du techno-thriller d'espionnage et d'action, dont on nous promet depuis des lustres une adaptation cinématographique qui n'est jamais arrivée. Le thème, au départ, une jeune fille assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan, un zoologiste, père de famille, décapité en public sous le soleil d'Arabie Saoudite, un complot qui vise à commettre un effroyable crime contre l'humanité et en fil rouge reliant ces événements, un dénommé Pilgrim.
Les 3 jours passés dans l'acide ont totalement effacé ses traits. C'était le but, je suppose. Celui qui l'a tué a aussi placé des annuaires téléphoniques sur ses mains pour les maintenir sous la surface. L'acide a dissous ses empreintes digitales, mais aussi toute la structure métacarpienne sous-jacente. À moins d'un gros coup de veine avec les empreintes dentaires, les gars de la médecine légale du NYPD vont avoir un mal fou à mettre un nom sur ce corps. Dans des endroits comme celui-ci, où on a le sentiment que l'enfer est encore accroché au mur, il vous vient parfois de drôles d'idées. Cette jeune femme sans visage me fait penser à une vieille chanson de Lennon McCartney, Eleanor Rigby, qui gardait son visage dans un pot à côté de la porte. Pour moi, la victime s'appellera désormais Eleanor. L'équipe de la scène de crime est loin d'avoir fini son boulot. Mais nul ne doute, sur place, qu'Eleanor a été tuée au cours de l'acte sexuel. Le matelas dépassant à moitié du sommier, les draps froissés, une giclée brune de sang artériel décomposée sur la table de chevet. Les plus tordus pensent qu'il l'a égorgée alors qu'il était encore en elle. Le pire, c'est qu'ils ont peut-être raison. Quelle que soit la façon dont elle est morte, que les optimistes, s'ils s'en trouvent, se rassurent. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qui lui arrivait. Jusqu'au tout dernier moment, en tout cas. Le Met, ou Cristal, y aura veillé. Ce truc-là vous excite tellement, vous rend si euphorique quand il atteint le cerveau, que vous ne voyez rien venir. Sous son emprise, la seule pensée cohérente qui puisse vous traverser l'esprit est de vous trouver un partenaire et de vous envoyer en l'air. À côté du papier d'alu ayant contenu le Met, j'aperçois un de ces petits flacons de shampoing qu'on trouve dans les salles de bain d'hôtel. Sans étiquette, il renferme un liquide clair, du GHB j'imagine. Très recherché ces temps-ci dans les recoins les plus sombres du web. À forte dose, ça remplace le rohypnol, la meilleure drogue du violeur en ce moment. La plupart des événements musicaux en sont inondés. Les habitués des boîtes de nuit s'en envoient une petite capsule pour couper le Met et atténuer le risque de paranoïa. Mais le GHB a lui aussi ses effets secondaires. Une perte d'inhibition et un plaisir sexuel plus intense. Easy Lay, c'est un des noms qu'on lui donne dans la rue. Après s'être débarrassée de ses Jimmy Choo et de sa minuscule jupe noire, Eleanor devait être un véritable feu d'artifice, un jour de fête nationale. Glissant au milieu de tous ces gens, inconnus de la plupart d'entre eux, étrangers, avec ma veste coûteuse jetée sur l'épaule et mon lourd passé, je m'arrête devant le lit. J'évacue les bruits. Et dans ma tête, je l'imagine là, nu, le chevauchant. Une vingtaine d'années, bien foutue, je la vois en pleine action. Le cocktail de drogue qui l'emporte vers un orgasme fracassant. La température qui grimpe en flèche. Les seins gonflés qui retombent. Le cœur qui s'emballe sous les assauts du désir et des molécules chimiques. Le souffle haletant, la langue humide qui cherche son chemin, dardée en quête de celle de son partenaire. Le sexe aujourd'hui, c'est pas pour les petites natures.
Et là, on retrouve de Terry Hayes dans L'année de la sauterelle qui vient de sortir, en même temps sur papier et en audio. Yes, on aime ça dans ces cas-là. On retrouve un agent de la CIA envoyé sur le terrain au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. C'est encore une fois très violent. Il n'y a pas que le sexe qui est fait pour eux. Il faut être solide pour lire ces livres-là. D'ailleurs, je me demande si ça ne va pas rester sur ma table de chevet. Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, au sujet de ce nouveau livre de Monsieur Hayes, dans le journal Le Point, on a écrit « Plaignons ceux qui n'ont jamais lu « Je suis pilgrim ». Le monumental thriller dostoïevskien de Terry Hayes, sorti en 2014, et plaignons aussi ceux qui ne liront pas L'année de la sauterelle, son nouveau thriller haletant, non moins monumental.
professionnel, avait-elle dit en se tournant vers moi et en soutenant mon regard. Il n'y a qu'une chose qui puisse causer ce genre de dégâts. Malheureusement, j'en ai vu beaucoup. Nos urgences traitent plus de blessures par balle que n'importe quel hôpital de Washington. C'était une balle, n'est-ce pas ? J'avais hoché la tête. Oui, une balle. Elle avait indiqué le point d'entrée sur la radio et tracé la trajectoire. 2 centimètres à gauche, un peu plus bas, et tu étais mort, avait-elle commenté. Sa voix était devenue plus inflexible, car elle essayait de ne pas laisser transparaître son émotion, mais les larmes lui étaient montées aux yeux. Oui, je sais qu'il s'en est fallu de peu. Le chirurgien qui l'a extraite me l'a dit. Elle s'était ressaisie, puis avait secoué la tête en signe de désespoir. D'accord, je ne vais pas te demander de me révéler des secrets. Je veux juste que tu me dises comment je le saurai. Comment tu sauras quoi ? Que je n'ai plus à t'attendre. Que tu ne reviendras pas à la maison. Que tu as... J'avais fini sa phrase. Que j'ai disparu. Je suppose qu'aucun de nous ne voulait dire « été tué ». Oui, disparu, avait-elle répété. C'est le mot juste. Ils ont tes coordonnées, Becca. Ils te le diront. Je m'en suis assuré il y a un moment. Je te remercie, avait-elle ironisé. Mais comment ? Par un appel téléphonique ? Un message me demandant de me rendre dans un bureau quelconque ? Est-ce qu'on me conduira à Langley ? À présent, elle était en colère. Il n'y a aucune raison pour que ça reste secret. Je veux juste savoir à quoi m'attendre. Non, ce n'est pas vrai, avais-je pensé. Tu veux savoir de quoi tu dois avoir peur, savoir à quoi ressemble le monstre. J'avais regardé par la fenêtre, la nuit était presque tombée. Qu'importait si cela était censé être secret. Elle avait raison, elle avait le droit de savoir. L'agence lui devait au moins cela. Une voiture viendra. Avais-je dit, elle sera délibérément ordinaire, une berline banale, essayant vainement de ne pas avoir l'air officiel. Elle ne roulera pas lentement. Les occupants sauront exactement où se trouve la maison qu'ils cherchent. Ils auront appelé l'hôpital pour s'assurer que pas, et seront venus un peu plus tôt pour vérifier que tu es bien chez toi. Je l'avais vu se tasser, choqué par cette surveillance et l'organisation silencieuse et efficace dont il ferait preuve. Un homme, probablement âgé d'une 40aine d'années, sortira de la voiture et frappera à la porte. Il te présentera une carte professionnelle pour te montrer que c'est officiel. La photo d'identité sera authentique, mais le nom sera faux. C'est la règle. Si tu es raisonnable, tu l'inviteras à entrer, avais-je poursuivi, aussi factuel que possible. Tu ne voudras sans doute pas vivre ça sur le pas de la porte. Il dira qu'il est vraiment désolé, mais que ton compagnon, en voyage à l'étranger pour le compte du gouvernement, a été tué dans un accident de voiture, le crash d'un vol charter ou quelque chose de ce genre. Mais ce ne sera pas vrai, avait commenté Rebecca. Il pourrait avoir un extrait de journal télévisé à te montrer, une vidéo de la télévision allemande, tout ce qu'ils ont pu créer ou réutiliser à partir d'autres images. Ça aura l'air très réel, mais non. Ce ne sera pas vrai.
Voilà, c'était un extrait de L'année de la sauterelle de Terry Hayes qui est paru tout récemment sur papier et en audio. On va faire un virage à, tiens, 360 degrés complètement. Êtes-vous, avez-vous des enfants ou êtes-vous encore vous-même des amateurs de babar ? Vous savez, le petit éléphant avec les grandes oreilles. Il a été créé au départ par une femme qui s'appelle Cécile Saboureau. Cette madame Saboureau a épousé à un moment donné un illustrateur du nom de Brunoff, Jean de Brunoff. Et ils ont eu 3 enfants, 3 fils... Et régulièrement, elle leur inventait des histoires plutôt que d'aller en chercher à droite et à gauche. Et c'est comme ça que Madame de Brunoff a inventé un jour pour ses enfants le petit Babar, Babar l'éléphant. Et les mômes étaient tellement amoureux de ces histoires-là que les 2 plus vieux Mathieu et Laurent sont allés voir le père. Donc apparemment, je pense que le père, il vivait peut-être plus là. En tout cas, ça, c'est pas écrit dans l'histoire. Et le père a tellement aimé ces histoires-là qu'il les a illustrées. Et lorsque le premier babar est sorti, on avait donc décidé, et très justement, de mettre sur la une les noms de Jean pour les illustrations et de Cécile de Brunhoff pour les histoires. Mais elle a refusé, elle a dit non, non. Elle a dit, oh, vous savez, finalement, c'est quand même très, très secondaire ce que j'ai fait. Alors, finalement, c'est son mari Jean qui a continué à créer 6 autres livres de babar. Puis, à sa mort, Laurent de Brunhoff. Et Laurent vient de mourir à son tour.
Babar remporte sa belle photographie et s'en va dîner chez son amie la vieille dame qui le trouve très chic dans son costume neuf. Comme il est bien fatigué, il va se coucher tout de suite après le dessert et s'endort très vite.
Jolie voiture, beau taxi, gentille dame, beaux habits.
Maintenant, Babar habite chez la vieille dame et le matin, avec elle, il fait de la gymnastique.
1, 2,
nous plions les genoux.
3, 4,
nous levons les bras.
5, 6, recommençons tout. 7, 8,
les mains bien à plat.
Allez Babar, nous plions les genoux.
3, 4,
ensuite Babar va prendre son bain. La gymnastique, c'est quelquefois un peu fatigant. Mais ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir conduire sa voiture. Tous les jours, Babar se promène dans une belle auto rouge. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. D'ailleurs, elle lui donne tout ce qu'il veut.
Attention, mais attention les piétons! Ne vous gênez la circulation!
Tous les jours également, un savant professeur donne des leçons à Babar. Celui-ci fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès.
2 et 2, 4. 3 et 1. 4, 1 et 3. 4.
Bien, continuons. 3 et 2.
Le soir, après dîner, Babar met sa jaquette, un joli nœud papillon, et adossé à la cheminée du salon, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt.
Nous dormions à la belle étoile, galopant tout le jour, mangeant des bananes et des noix de coco.
Oh, quelle vie merveilleuse!
Des livres pleins les oreilles, la suite. Tout d'abord, permettez-moi de saluer ceux que je n'ai pas salués depuis le début de l'émission, en l'occurrence les auditeurs de Canal M, bien sûr, ceux qui nous écoutent en podcast sur le web ou encore ceux qui nous écoutent via CKVL. En cette seconde partie, Faline Bobier nous présente 3 livres audio accessibles gratuitement via le CAEB, donc via vos bibliothèques, et ça c'est vrai pour toutes les personnes à qui la vue ne permet plus la lecture par les yeux. Et puis au chapitre des nouveautés, le 13 attendu récit de Salman Rushdie au sujet de l'attaque au couteau dont il a été victime, et le dernier, Jean Gounel, Un monde presque parfait. Bonjour Faline.
Bonjour Clotilde, ça va?
Oui, ça va très très bien. Je vous remercie Faline d'avoir eu cette heureuse et généreuse idée de nous parler d'un livre d'Alice Munro qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et donc je voudrais que ce soit par ce livre-là, qui est un recueil de nouvelles je pense, c'est par lui que nous allons commencer.
Oui, c'est ça. En fin de compte, c'est son dernier recueil de nouvelles.
Oui.
Rien que la vie. Et comme tout le monde sait probablement, Monroe est née en Ontario et elle est morte, comme vous dites, ça fait une semaine à peu près.
Un petit peu plus, Falline, au moment où nous diffusons l'émission, mais c'est pas grave, de toute façon. Oui, oui, parce que non, mais peu importe. Oui. Donc ça fait 3 semaines au moment où nous en parlons ensemble, mais c'est pas plus grave que ça. Je voulais juste le préciser pour que les gens soient pas perdus.
Oui, c'est une bonne idée. Alors, c'est comme perdre une vieille amie parce que je me rappelle la première fois que j'ai lu, je ne me rappelle plus lequel des recueils, mais elle a écrit plusieurs recueils de nouvelles. Mm-hmm. C'était surtout sans format. Elle a écrit un roman, mais la plupart de son œuvre, il s'agit de recueils de nouvelles.
Ouais.
Et on la compare souvent à Tchekhov. Écrivain russe,
oui.
Surtout parce que c'est vraiment son art de la description et la manière qu'elle a de mettre l'intrigue au deuxième plan afin vraiment de privilégier l'étude psychologique des personnages.
Oui, tout
et,
à fait.
C'est surtout, elle parle, comme elle dit elle-même, de gens ordinaires. Surtout de personnages féminins et souvent des femmes qui ne vivent pas dans les grandes villes, mais plutôt non pas en campagne, mais dans les petits villages, en Ontario ou en Colombie-Britannique, où l'auteur elle-même a vécu pendant sa vie.
Mm-hmm. Est-ce qu'on sait, parce que moi je pense avoir lu la réponse, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est consacrée qu'à la nouvelle? Le savez-vous?
Je ne sais pas vraiment,
c'est
mais
vrai?
Je trouve qu'elle est qu'elle est experte à ce genre parce que ce n'est pas quelque chose. Souvent, je pense les écrivains qui travaillent plus dans les nouvelles, ils sont moins connue.
Souvent, on commence par ça. Et puis tout d'un coup, on se lance. Mais vous savez qu'un jour, elle avait déclaré à un journaliste qui lui posait la question pour la énième fois, écoutez, ça, c'est beaucoup plus conciliable avec une vie de famille. J'avais trouvé ça. Mais vous savez, quand on parle de gens simples, et je pense que Mme Monroe était exactement celle-ci. Alors là, est-ce que c'était un extrait de Rien que la vie? Est-ce qu'il y a une nouvelle qui s'appelle comme ça?
En fin de compte, c'est la dernière nouvelle dans le recueil qui s'appelle « Rien que la vie ».
D'accord. Alors, on écoute un extrait de « Rien que la vie » d'Alice Monroe.
Une fille que j'appellerai Diane arriva alors que ma deuxième année était déjà bien entamée. Elle avait à peu près mon âge et habitait dans une de ces maisons donnant sur un bout de trottoir. Elle me demanda un jour si je savais danser la gigue écossaise. Et quand je lui répondis par la négative, proposa de me l'apprendre. Dans cette idée, nous allâmes chez elle après l'école. Sa mère était morte, et elle était venue vivre chez ses grands-parents. Pour danser la gigue écossaise, me dit-elle, il fallait des chaussures de claquettes, qu'elle possédait, et évidemment, pas moi. Mais nous faisions à peu près la même pointure, de sorte que je pus les porter pendant qu'elle essayait de m'apprendre. L'exercice finit par nous donner soif, et sa grand-mère nous offrit un verre d'eau. Mais c'était une eau horrible, tirée d'un puits creusé à la pelle, exactement comme à l'école. J'expliquai que nous disposions chez nous d'une eau de qualité supérieure que nous tirions d'un puits artésien, et la grand-mère, sans se sentir le moins du monde enfoncée, dit qu'elle aurait bien voulu en avoir un aussi. Mais ensuite, et trop tôt, ma mère arriva, étant allée à l'école où on lui avait dit où j'étais. Elle klaxonna pour me faire venir et ne répondit même pas au signe amical que lui adressa la grand-mère. Ma mère ne conduisait pas souvent, et quand elle le faisait, cela revêtait une certaine solennité inquiète. Sur le chemin du retour, je m'entendis enjoindre de ne jamais remettre les pieds dans cette maison. Cela ne me fut guère difficile parce que Diane cessa de venir à l'école quelques jours après. On l'avait envoyée ailleurs.
Extrait d'un livre dont nous parlions avec Falline Bobier, qui est mon invitée aujourd'hui. Le livre la nouvelle Rien que la vie, la dernière nouvelle d'un recueil qui porte le même nom d'Alice Monroe. Alice Monroe dont nous venons de saluer la mémoire. Vous avez choisi après, Falline, Dans l'ombre du soleil.
Oui, c'est un... Et le sous-titre, Réflexion sur la race et les récits. C'est par Essie Edoogian que Edoogian est devenue célèbre, surtout avec son deuxième roman qui a gagné le prix Giller au Canada, Half Blood Blues. Mais ce livre, c'est plutôt, c'est comme un mélange, je dirais, d'un essai littéraire, récit de vie et chronique historique. Donc, dans ce livre, elle va parler du fait que, pour la plupart, jusqu'au 20e siècle, dans la littérature, les personnages noirs sont rarement représentés. Ou s'ils sont représentés, ce n'est pas comme des êtres humains à part entière. Donc, elle va faire des commentaires tout le long du livre. Et ça fait partie aussi de son propre expérience parce que elle est née de parents immigrés du Ghana. Donc, elle est née à Calgary, en Alberta. Elle a étudié l'écriture créative à l'Université de Victoria et aussi à l'Université Johns Hopkins. Donc, l'idée du livre, c'est vraiment ça, c'est de mettre, de parler de ce fait et de dire que maintenant, les personnages noirs, les écrivains noirs ne vont plus rester dans l'ombre.
Dans l'ombre, oui, mais absolument. Et quoique, on n'est pas encore rendu tout à fait non plus là, mais quand même, mettons qu'il y a un effort qui a été fait. Je vous propose un extrait de « Dans l'ombre du soleil, réflexion sur la race et les récits » d'Essie Edoogian. En voici un extrait.
Quelques années plus tard, j'ai appris avec stupéfaction que les parents de mon ami avaient vendu la ferme. Ils n'aimaient plus la campagne? Lui ai-je demandé. Ce n'était pas ça. La raison de leur départ s'est révélée bien plus étrange. Les choses avaient commencé simplement, graduellement. Après avoir passé une bonne partie de la journée en ville, ses parents avaient trouvé, à leur retour, les meubles du salon légèrement déplacés. Leurs pieds se dressaient maintenant à quelques centimètres à droite des marques qu'ils avaient laissées dans le tapis au fil du temps. Ils ont replacé les meubles, sans trop se poser de questions. Cependant, la chose s'est reproduite. À plusieurs reprises, ils ont appelé un ami travaillant dans la construction. Son enquête n'a rien révélé d'anormal. Puis d'autres incidents se sont produits, alors même qu'ils se trouvaient chez eux. Quand elle interrompait sa lecture, la mère de mon ami plaçait ses lunettes dans le livre pour marquer la page, s'étant éloignée quelques instants pour prendre une gorgée d'eau à l'évier. Elle a constaté que ses lunettes avaient disparu et elle les a retrouvées à l'autre bout de la maison, dans une chambre d'amis où elle entrait rarement. Les photos encadrées qui ornaient les bureaux et les commodes étaient régulièrement culbutées, leurs vitres vers le bas. Une fois, installée dans un fauteuil avec des mots croisés, dos à la fenêtre, la mère de mon amie a entendu le store vénitien s'ouvrir de deux ou trois lattes. Lentement, elle s'est levée d'un bond pour regarder derrière elle. La cordelette du store dansait encore.
Et on change de sujet complètement. On s'en va dans une petite librairie de Riverside Drive.
Oui, et d'après, je n'ai pas encore lu le livre. Je vais le lire cet été, je crois. Mais les personnes qui ont lu le livre disent que c'est un livre parfait pour l'été.
Ah, et, merveilleux.
J'avais l'impression... l'écrivaine, elle est suédoise, Frida Steinbach. Donc, elle a commencé par écrire des romans historiques, mais en 2018, elle a écrit son premier roman contemporain. C'est celui dont on va parler, La petite librairie de Riverside Drive. L'histoire, c'est le personnage principal, c'est Charlotte, qui vit cloîtrée chez elle au cœur de la campagne suédoise depuis le décès de son mari un an plus tôt. Et un jour, elle apprend qu'elle a une tante qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait même pas qu'elle avait une tante, qui lui a légué une librairie au cœur de Londres. Donc, elle prend le premier vol pour l'Angleterre, déterminée à vendre la propriété le plus rapidement possible. Mais une fois là-bas, elle elle est charmée un peu par la librairie, par les employés, par un jeune écrivain, William, qui habite à côté. Donc, elle choisit de rester et essayer de se battre pour sauver la librairie de la faillite. Mais il y a aussi un secret de famille. Donc, depuis 30 ans, qui fait surface. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais connu sa tante? Quel secret se cache derrière les murs de la librairie? Donc, le roman va... on va parler de l'histoire de sa mère et de sa tante, cette femme qu'elle ne connaissait pas, qui ont travaillé ou qui ont travaillé dans la librairie en 1982, donc il y a 30 ans. Okay.
Est-ce que c'est celle qu'on appelle Sarah à ce moment-là?
Oui, c'est ça. Sarah, exactement. C'est sa tante.
D'accord.
Et donc, il y a les deux histoires.
D'accord.
Et donc, je voudrais lire juste un petit extrait de quelqu'un qui a lu le roman.
Ah oui?
Le roman est parfait pour l'été, un feel-good avec des secrets de famille, de temporalité et surtout une histoire qui se déroule dans une librairie. Ça se lit vite, les personnages sont super à suivre, je recommande. Alors, je pense que ça va faire une bonne lecture pour l'été. Quelque chose de ne pas très lourd.
OK, on en écoute un extrait.
Le lendemain matin, Sarah téléphona à tous les vétérinaires des environs, contacta la police et colla des affiches dans le quartier, sans résultat. C'était tout à fait providentiel, car Tennyson devint vite un membre de la famille, et bientôt, plus personne ne se rappela à quoi ressemblait la librairie avant que le gros chat gris n'ait élu domicile entre les rayonnages. Martinique se dirigea vers Tennyson et s'accroupit en faisant tinter les perles arc-en-ciel qu'elle portait autour du cou. Tant qu'il était autorisé à rester dans la librairie, il était le chat le plus gentil du monde. Mais depuis que Sarah n'y habitait plus, elle se sentait obligée de l'emmener avec elle le soir. « Viens là, Minou, » dit-elle doucement. « C'est l'heure de rentrer à la maison. » Tennyson plissa les yeux et la gratifia d'un regard indigné, comme s'il l'avait parfaitement comprise et qu'il voulait lui répondre « Ma bonne dame, sachez que la maison mitoyenne où vous me traînez tous les soirs n'est pas la mienne, c'est ici que j'habite. » Même après plusieurs semaines, il continuait de monter à l'étage de la librairie où se trouvait l'appartement de Sarah, se faufilait par la chatière et se plantait devant la porte de sa chambre, d'où il poussait des miaulements aigus, comme si sa maîtresse s'était retirée un instant pour avoir la paix et qu'elle pouvait ressortir à tout instant.
Un extrait de la petite librairie de Riverside Drive, et je vous remercie d'évoquer un livre d'été parce que les auditeurs le savent peut-être pas encore, mais je vais leur apprendre et je vais vous le dire aussi. Je suis en train de concocter quelques émissions de Des livres plein les oreilles en vacances, et je ne vais proposer dans ces émissions-là que des livres faciles à écouter en été, que ce soit toutes sortes de livres, mais des trucs sympathiques à écouter quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on prend un drink, voilà, etc. Oui. Alors, il est possible que je reprenne, que je vous pique cette idée de la petite librairie de Riverside Drive. Je voulais aussi, Faline, vous dire au revoir parce que c'est la dernière en ce qui nous concerne de la saison. Je voudrais vous remercier pour vos implications toujours généreuses et je dois le dire gracieuses, absolument bénévoles, que vous faites à l'émission Des livres plein les oreilles.
Et merci beaucoup à vous aussi, Clotilde, pour nous donner l'occasion de parler un peu des livres dans notre librairie ou notre bibliothèque.
Alors, je rappelle que s'il s'agit de la bibliothèque du Caeb, donc c'est via toutes les bibliothèques, c'est une bibliothèque qui donne accès gratuitement à des livres audio, notamment pour les personnes qui ont perdu l'usage de la vue. Merci beaucoup, Faline, et bonjour à toute votre équipe.
Merci et passez un bel été.
Et vous aussi, Faline. Faline Bobier. Okay. Merci, au revoir. Je ne suis pas l'ami d'André Chay. C'est ainsi que commence le résumé que l'on fait de Le nom sur le mur d'Hervé Le Tellier, lu par Charles Berling dans les studios Gallimard. Écoutez lire. Ça vient de sortir. Donc, je ne suis pas l'ami d'André Chay, et aurais-je d'ailleurs su l'être, moi, que presque rien ne relie à lui, juste un nom sur le mur. Chay ou Chex, hein, les deux se disent, était un résistant, un maquisard, un jeune homme à la vie brève, comme il y en eut beaucoup. Ça nous rappelle un petit peu le début de cette émission consacrée au 6 juin 44. L'auteur, Hervé Le Tellier, nous dit ces mots. Je ne savais rien de lui. J'ai posé des questions. J'ai recueilli des fragments d'une mémoire collective. J'ai un peu appris qui il était. Dans cette enquête, beaucoup m'a été donné par chance, presque par miracle, et j'ai vite su que j'aimerais raconter André Chay. Sans doute, toutes les vies sont romanesques, mais certaines plus que d'autres. Extrait.
Je cherchais une maison natale. J'avais expliqué à l'agent immobilier, pas une villa de vacances, pas une maison d'architecte, pas un château, pas un bien atypique. Ces bergeries ou magnaneries transformées en habitations où l'on se cogne dans les chambranles de portes à hauteur de brebis. Non. Je voulais une maison où j'aurais pu m'inventer des racines. Et aussi une maison dans un village vivant, où l'on fait ses courses à l'épicerie et boit l'apéro au café. Dans cette drôme provençale où j'avais des amis depuis longtemps. Alors j'ai visité cet ancien relais de poste, fait quelques pas dans le petit jardin potager à l'arrière, avec sa perspective sur les pics de Miélandre et du Grand Ruy. J'ai gravi l'escalier de pierre qui desservait les chambres et un grenier poussiéreux. Bien sûr, j'avais trouvé, c'était elle, ma maison natale, une bâtisse de 2 étages, solide, vieille de 2 siècles, aux épais murs de pierre, au cœur du hameau de La Payette, à Montjoux, tout près de Dieu le Fit. Tina, la propriétaire, était céramiste. Elle était aussi allemande. Elle avait vécu là près de 2 décennies, jusqu'à ce qu'elle estime, à 65 ans, que le métier exigeait trop de ses muscles et de son dos, et qu'il était temps pour elle d'aller peindre des aquarelles à Granville. Son travail sur la matière évoquait un Nicolas de Staël, amateur d'émail, et sur la façade côté rue, des plaques de céramique vernissées, vissées à hauteur d'homme, couvraient une bande horizontale. À son départ, elle les avait toutes emportées, sauf une. C'était son cadeau et sa trace, que je lui ai promis de préserver. Lorsque la dernière plaque, la plus à droite, a été retirée, un nom est apparu, gravé à la pointe en lettres majuscules dans le crépi grège. André Chex. Le R d'André, à mieux regarder, était une grande minuscule. Lorsqu'on déjeune dans cette cour, au frais, à l'ombre du grand platane, on distingue à peine les lettres. Je doute que le crépi, qui s'est ici et là détaché de la pierre, ait été repris jamais. Je me suis habitué à ce nom sur le mur, et j'ai fini par l'oublier.
Cette voix, celle de Charles Berling, lisant « Le nom sur le mur » d'Hervé Le Tellier, depuis tout récemment existant en livre audio et évidemment sur papier. Le congrès de futurologie de Stanislas Lem, lu par Frédéric Souterel. Résumé. Saviez-vous que le nombre de futurologues croît à la même vitesse que l'humanité tout entière? Le 8e congrès mondial de futurologie a tenu ses assises au Hilton de Costa Ricana. J'y assistais. Je vous préviens, c'est complètement farfelu cette affaire-là. Dès le matin, un commando terroriste enleva le consul général américain. De mon côté, au bar de l'hôtel, je fis la connaissance d'un colosse barbu armé d'un fusil anti-pape qu'il comptait utiliser sur la personne d'Adrien XI. Il y avait de l'électricité dans l'air. Notre première séance n'était pas achevée que les combats de rue éclatèrent. Le pays était en proie à une nouvelle révolution. Le gouvernement fit aussitôt glisser dans l'eau du robinet de fortes doses de supercarésine et de félicitol. L'émeute tourna rapidement à l'orgie et au milieu de la confusion générale, il fallut bientôt chercher refuge dans les égouts où les rats intoxiqués se promenaient en couple, la queue dans la queue. Et ce n'était encore que la première journée. Lorsque je repris mes esprits en 2039, la psychimie avait fait accomplir à la civilisation d'énormes progrès. Je n'étais pas au bout de mes surprises. La société secrète, les drogues qui assurent sa survie, l'ordre social lui-même en était la plus redoutable. À l'inverse des futurologues, l'EM a choisi d'éclairer notre présent à l'aide des mots de l'avenir, néologisme bouffon ou terrifiant. L'apocalypse saugrenue qui nous est décrite ici évoque aussi bien les pièges logiques de Robert Shickley que les univers emboîtés de Philip K. Dick. Voilà ce qui s'annonce dans ce livre audio. Un extrait.
Je remarquais sur la porte un petit écriteau muni de l'inscription « La direction du Hilton garantit l'absence de bombes dans cette pièce ». Comme on le sait, les savants se divisent aujourd'hui en deux catégories, les stationnaires et les ambulants. Les savants stationnaires s'adonnent comme autrefois à diverses recherches, tandis que les ambulants participent à toutes sortes de conférences et congrès internationaux. On reconnaît aisément les savants de la seconde catégorie. Sur le revers de leur veston, ils portent une petite carte de visite avec leur nom et leurs titres universitaires. Et ils ont toujours dans leur poche les horaires des lignes aériennes. Ils utilisent des ceintures dépourvues de parties métalliques et même leurs serviettes sont bouclées à l'aide de fermoirs en plastique. Toutes ces précautions servent à ne pas déclencher inutilement la sirène d'alarme du dispositif installé dans les aéroports. Celui-ci permet en effet de passer les voyageurs au rayon X afin de lancer éventuelles d'armes blanches ou d'armes à feu. Ces savants-là étudient la littérature spécialisée dans les autobus des compagnies aériennes, les salles d'attente, les avions et les bars d'hôtel. Comme j'ignorais pour des raisons compréhensibles bien des particularités de la civilisation terrienne de ces dernières années, il m'est arrivé de déclencher l'alarme dans les aéroports de Bangkok, d'Athènes et même de Costa Ricana. Je n'ai pu intervenir à temps vu que j'avais dans la bouche 6 plombages métalliques en amalgame. Une fois arrivé à Nounas, j'avais l'intention de les faire remplacer par des plombages en porcelaine, mais des événements inattendus m'en ont empêché. Pour ce qui est de la corde, de la barre, des biscuits et de la pèlerine, un des membres de la délégation futurologiste américaine m'a expliqué avec une certaine condescendance que de nos jours, l'hôtellerie prenait des mesures de sécurité sans précédent. Chacun de ces objets placés dans l'appartement devait augmenter les chances de survie du client. Agissant un peu à la légère, je n'accordais guère d'importance à ses propos. Les débats devaient commencer l'après-midi du premier jour. Dès le matin, on nous fournit la documentation complète des conférences, élégamment présentée, pourvue d'une typographie soignée et agrémentée de nombreux échantillons. C'étaient les petits blocs de papier bleu satiné qui faisaient le plus d'effet. Ils étaient munis de l'inscription « Permis de copulation ». Les conférences scientifiques modernes ont également à pâtir de l'explosion démographique. Étant donné que le nombre de futurologues croît à la même vitesse que l'humanité tout entière, la cohue et l'affluence règnent dans les congrès. Il ne saurait être question de faire oralement la totalité des exposés. Chacun doit donc en prendre connaissance auparavant. Toutefois, nous n'en eûmes pas le loisir durant la matinée, car nos hôtes nous convièrent à boire un verre. Cette petite réception se déroula pratiquement sans incident, si ce n'est que la délégation américaine fut dûment bombardée avec des tomates pourries. Verre en main, j'appris d'un journaliste de mes amis, Jim Stantor de l'United Press International, que le consul général ainsi que le troisième attaché de l'ambassade américaine avaient été enlevés à l'aube. Les ravisseurs des extrémistes exigeaient la mise en liberté des prisonniers politiques en échange de la libération des diplomates. Afin de souligner tout le sérieux de leurs exigences, ils avaient expédié à l'ambassade et aux représentants du gouvernement une dent appartenant à chacun des otages, annonçant la possibilité d'une escalade. Cette fausse note ne put cependant troubler la chaude atmosphère de ce cocktail matinal. L'ambassadeur des États-Unis, qui s'y trouvait en personne, fit un très bref discours rappelant la nécessité d'une collaboration internationale. L'orateur était toutefois encadré par 6 civils de belle carrure qui nous tenaient en joue. J'avoue que cela me déconcerta quelque peu, d'autant qu'un délégué indien à la peau basanée était par hasard enrhumé. Sentant le besoin de se moucher, il fit un geste vers sa poche. L'attaché de presse de la société de futurologie m'assura par la suite que les mesures prises étaient indispensables et, de plus, tout à fait humanitaires. Le service de protection dispose exclusivement d'armes de gros calibre à faible force de pénétration, tout comme la police à bord des avions de ligne. Ainsi, les tierces personnes ne risquent-elles plus de subir un quelconque dommage. En revanche, il arrivait naguère qu'un projectile en abattant l'auteur d'un attentat transperça aussi de part en part les 5 à 6 malheureux innocents assis derrière lui.
Farfelu et démentiel, vous avez dit. Le congrès de futurologie de Stanislas Lem, lu par Frédéric Souterel. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci à Faline Bobier, merci à Mathieu Tessier en régie. Je suis Clotilde Seille, j'anime et je réalise pour vous cette émission avec un grand plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.